jeudi 14 juin, 22h, 1h.
Transistor vous emmène au bout de la nuit.
Bienvenue dans le premier direct de nuit et anarchique de Transistor pour ce vol de nuit qui commence à 22h07. Nos chroniqueurs et chroniqueuses vous ont préparé des émissions aux petits oignons et une excellente bouteille de rouge. Vous allez pouvoir retrouver nos critiques de spectacle dans En Spectateur, nos avis vidéoludiques dans Les Aventuriers du Pixel Perdu, nos impressions sonores avec Errance, nos lectures avec Lésion des Oreilles, pardon, et notre sélection musicale dans Scratch pour finir ce direct. Mais on commence tout de suite avec Transistor Veille, notre rubrique d'actualité nocturne. Il est 22h02 et on ouvre cette rubrique avec le journal. Bon, alors merde, notre journaliste actualité Maë est ivre morte, couchée sur le lino. Transistor s'excuse pour cette interruption momentanée de vos programmes. Mais rassurez-vous, nous vous avons proposé une séquence de remplacement. Nous avons trouvé un youtubeur ASMR qui se baladait dans le couloir. Bonsoir Thomas.
Bonsoir. Bienvenue sur Transistor. On m'a demandé, je ne suis pas sous respirateur artificiel. Mon souffle n'a pas été coupé par les derniers tweets de Marlène Schiappa. Non, je suis juste venu. Chute la moto. Je suis juste venu vous proposer une ambiance nocturne ce soir. Ce soir, le premier direct de Transistor, on m'a demandé de reproduire une ambiance nocturne. Donc, vous allez vous immerger avec moi dans une ambiance de nuit d'été. Nous allons reproduire ça. Écoutez d'abord les grillons. C'est le sud. Le temps dure longtemps. Très longtemps. L'apéritif commence. Les portières claquent. Et des tuiles tombent du toit aussi apparemment. Tout est cassé. L'eau coule près des fleuves. L'eau croupit. L'eau stagnante de la villa de Tata Janine, qui n'a personne pour vider ses baquets d'eau. Et ses chiens qui ont soif. Et bien sûr, les moustiques du cul attirés par l'eau. Et bien sûr, on veut les tuer. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. Et pendant que certains s'adonnent à des plaisirs défendus, certains boivent des choses à des capsulés. Merde, mon effet niqué. Ah, voilà. Le champagne, le rosé et autres boissons nocturnes telles que, voilà. Mais l'heure tourne. C'est le sud. Le temps dure très longtemps et Tata Janine vient de tomber dans les escaliers en pierre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et du coup, l'eau coule. Les chiens s'abreuvent. C'est dégueulasse. Et maintenant, certains déjeunent des tomates cerises. C'est frais. Ça passe bien. Après le champagne. Mais qu'est-ce qu'on entend? Merde, mes objets accessoiristes. Le vent. Serait-ce la pluie? La pluie. Qu'est-ce qu'on entend au loin? Merde, mon papier bulle. Attendez. Le vent est fort ce soir. Ça pète. Ça pète. Voilà. Voilà. C'est un orage de grêle qui s'abat sur Toulon avec les maximales à Aubagne et les minimales à Aurillac. L'orage est prêt maintenant. La pluie tombe. Tout le monde s'est abrité. Les criquets ont fermé leur gueule. C'est l'été. Bon, alors la pluie tombe. Le temps passe. Et certains s'adonnent à des jeux de l'ère de Woodstock. Des histoires. Karnak, le premier mongol. La quête de l'épée. Les tomates cerises.
Bon, je pense que...
Merci à tous. Bonne soirée sur Transistor.
Et merci à
Profitez
toi.
De cette nuit d'été. Et je laisse la place à de meilleurs augures avec la chronique voyance.
Oui, bonjour à tous. Après ce moment d'intense détente, diront certains, malaise, diront d'autres.
Oui, peut-être bien.
Alors... Ce soir, nous allons vous faire un truc inédit sur Transistor, c'est une chronique voyance. Vous savez, chers auditeurs et chères auditrices, nous vivons des temps troublés. Une époque de doute et d'incertitude. Parcoursup laisse toujours plus de 120 000 étudiants sur le carreau à seulement 4 jours du bac. Le site prévu pour remplir nos plans d'études ne marche qu'une fois sur 12 et nous ne savons toujours pas qui va remplacer Yann Moix dans On n'est pas couché. En cette période tumultueuse, chères auditrices et chers auditeurs, j'ai choisi de vous révéler l'un de mes nombreux talents cachés. Je lis les cartes. Pas les cartes routières, ni les cartes bleues, mais les cartes de jeu ancestrales du tarot de Marseille. En ce soir de direct nocturne, j'ai donc décidé de tirer les cartes de mes chers camarades pour tenter de démêler les fils mystérieux du destin. Alors, nous allons commencer par Marie.
Oui, je suis là, présente, toujours.
Je vais donc te tirer 3 cartes.
Fais donc.
Alors, grâce à un site internet de grande qualité qui est tirage.net, tu as donc tiré la justice, le fou et la roue de la fortune.
Mais qu'est-ce que cela veut dire, Occitane ?
Marie. Comme nous tous, tu es une islamo-gauchiste invétérée.
Éprise... Je le confesse.
Éprise de justice sociale et pétrie d'internationalisme crypto-marxiste, tu te demandes si Gérard Collomb va finir par être mis sous tutelle et envoyé dans l'EHPAD le plus proche.
Oh oui.
Et qu'enfin quelqu'un dans ce gouvernement finira par descendre de sa tour d'ivoire pour annoncer en direct de la maison de la radio « Tiens, et si on recueillait l'Aquarius ?» Ah, sacré Marie. C'est pas pour rien que tu as tiré la carte du fou. Bon, là, vous n'avez pas besoin de moi pour interpréter. Les gauchias peuvent se gratter. Faudrait pas non plus croire que la France est le pays des droits de l'homme. Mais bon, il reste de l'espoir. Tu as tout de même tiré la roue de la fortune. Et comme dit notre philosophe du ballon rond favori, la roue tourne va tourner. Peut-être que les humains finiront par remplacer les reptiles au gouvernement, un de ces quatre. Les esprits n'arrivent pas à se mettre d'accord là-dessus.
Merci, Occitane.
Thomas,
oui.
C'est ton tour.
Le destin.
Alors... Tu as tiré le jugement, le diable et le soleil.
Oh, ça va.
Quelle indignité, Thomas. Sur le service public, en plus. Vous n'avez pas honte. Invoquer les esprits pour connaître l'aboutissement de la mise en examen de Sarkozy sur l'affaire libyenne. Tu as de la chance que mes cartes soient en ligne directe avec la moustache des douilles Plenel. Et que j'en sache un peu plus long là-dessus. J'ai consulté 1 600 322 futurs alternatifs. Et dans seulement 2 d'entre eux, Sarkozy et sa clique font de la prison. Et dans un des 2, c'est parce que Philippe Poutou a gagné les élections anticipées, parce que Macron, lapsus ô combien révélateur, avait été frappé par la foudre. Autant vous dire qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas, comme disait l'autre. Mais là, c'est encore pire. On sait qu'il existe, on sait où il habite, mais il peut encore marcher en plein soleil, et c'est pas demain la veille qui finira à l'ombre. Allez, une petite dernière pour la route. Félix, viens donc, je vais te tirer les cartes.
Félix, prends un micro.
Merci, Occitane. Je ne sais pas du tout si on m'entend.
Approche-toi.
Je m'approche.
Tu es donc tombé sur l'impératrice, l'amoureux et la papesse.
Parfait.
Mes aïeux. Qu'il dit. Mes aïeux, les amis, nous avons un problème. Félix ressaisis-toi. Ce n'est pas parce que Sa Majesté Chiappa, princesse d'Empire, a cité Marx dans un tweet hier qu'il faut céder à ses charmes de succube. Elle est folle, Félix. Tu as lu son dernier bouquin, celui où elle écrit des lettres plus malaises les unes que les autres à des filles qui ne les ont sans doute jamais reçues, dans lesquelles elle leur préconise de trouver un mari et de bien se faire les ongles. Elle pense que les seules féministes qui ont le droit de citer sont les start-upeuses et les blogueuses. Et puis pense à l'article 2. En plus, c'est une grammaire nazie, alors avec ça... Écoute, ne t'en fais pas, tout n'est pas perdu, tu as aussi tiré la carte de la papesse. Je te prédis que l'année prochaine, tu vas suivre un certain cours féminisme et pensée critique à l'ENS, un cours que je recommande à tous et à toutes. Ça sera votre bonne résolution de la rentrée. Oui, je fais aussi dans la prophétie auto-réalisatrice. En attendant, à l'année prochaine, et bonne soirée avec la suite de Transistor Veille et votre nouveau jeu radiophonique favori, Des poils plein les yeux.
Je joue avec qui ? Ok, Juliette, si on perd, ça va mal se passer. Je crois que personne ne les comprend vraiment.
Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle session de votre jeu capillairement trop classe, Des poils plein les yeux.
Ouais.
Animé par Colline et son stagiaire de Transistor, j'ai nommé Jean-Baptiste. Enfin, moi, je l'aurais pas nommé comme ça, mais c'est ses parents qu'on choisit.
Ah bah merci.
Le stagiaire n'a même pas de chaise, c'est une honte. Alors, sur le service public, quelle intimité.
En ce jour, ou plutôt... En cette nuit de direct nocturne, donc, nous avons dynamité la soirée et pris nos otages. Le mot est juste. Alors, nos otages, nous les avons attachés aux chaises, nous avons enlevé leurs vêtements. Alors, c'est vous dire si la soirée est bonne. Un seul moyen de s'en sortir, répondre à nos questions tout au long du jeu. Pour éviter qu'ils n'attrapent trop froid, nous leur distribuerons des poils en guise de récompense. Afin de ne pas rendre leur supplice inacceptable, nous les avons mis en équipe. En face de moi, l'équipe Porc-Épic, constituée de... Allez-y les filles.
Eva
et Marie.
Et à ma gauche, l'équipe qui était bien, mais qui est plus bien, tout simplement l'équipe qui est plus bien.
Salut.
Vous êtes... Salut.
Thomas.
Et Juliette.
Thomas et Juliette. Alors, à l'issue de trois manches de questions, l'équipe qui aura le plus de poils aura l'opportunité de s'échapper. Quant à l'autre, bon, on va pas s'éterniser. Nous allons d'abord mieux connaître nos prisonniers en leur tirant les vers du nez. Équipe Porc-Épic, la salade, vous la préférez pas zonée, trop zonée ou assaisonnée ?
Pas zonée.
Pas zonée, avec juste un trait de citron. Le reste, c'est superflu. Voilà, ouais. C'est tout ?
Mais quelle classe, quelle élégance.
On est healthy ici, d'accord ?
Équipe qui est plus bien, c'est quand la dernière fois que vous avez bu du jus de pomme ?
Moi je bois actuellement un très bon cidre. Bon, est-ce que c'est du jus de pomme ? Je ne sais pas.
Oh,
c'est...
Thomas, n'exagère pas,
non,
quand même.
Exagère poil, MDR.
Super ! Maintenant que nous nous connaissons un peu mieux, passons à la première manche du jeu, inspirée d'une manche du Burger Quiz, mais à notre sauce, la sauce au poil. Bon, attention, nous jouons pour des poils de jambes. Deux touffes par bonne réponse. Jean-Baptiste, tu tiens les scores, hein, s'il te plaît. C'est ton job, merci. Alors, c'est une épreuve de rapidité. La première équipe qui a la réponse me la crie, mais pas trop fort. Attention aux oreilles de Félix, notre cher régisseur. Merci. Alors, attendez bien la fin de mes questions. Vous avez le droit de répondre Donald Trump, Donald Duck ou les deux. Quand il se fâche... Il devient tout rouge et n'est pas beau.
Donald Trump.
Les deux bonnes réponses, Thomas. Bravo.
Mais c'est ça, pas avoir dit ça.
Écoutez, écoutez, voilà.
Bien joué, Thomas.
Merci.
Alors,
merci.
Arbitre Jean-Baptiste, que dis-tu ?
Deux points pour Thomas et Juliette.
Merci, merci le stagiaire.
Alors, il ne porte jamais de pantalon.
Donald Duck. Ouais.
Donald Duck, bravo Marie, c'était facile.
Réaction, hein.
On ne peut pas dire qu'il parle très bien.
Les deux.
Non, mais... les deux. C'est Juliette qui l'a eu à ma gauche, j'ai très bien entendu. Il faut vraiment qu'il nous donne l'adresse de son perruquier.
Donald Trump,
je ne crois pas
cheveux,
que
il a
Donald,
pas de cheveux, Donald Duck
porte une perruque.
Il y a des plumes.
Revois tes classiques, Eva.
Eva, ne me regarde pas comme ça, ça ne marchera pas.
Je tiens à rappeler qu'il a le code nucléaire.
Donald Trump,
effectivement.
La seule qui joue.
Perturbé par le code du Rhône.
Oui, le code du Rhône arrive. Alors, j'arrive.
Et enfin, oui, mais sans vin, non.
C'est beau.
Et enfin, il ne fait jamais canard.
Les deux.
Bah non, Donald Trump.
Ah non.
Donald Trump, effectivement, Marie.
Mais
Jean-Baptiste,
une petite
explication sur ce que c'est que faire canard. Personnellement, je ne connaissais pas.
Faire canard, c'est se taire.
Bah merci Jean-Baptiste. Et voilà, c'est fini pour
merci.
La sauce au poil. Petit bilan des poils, Jean-Baptiste. Où en est-on niveau touffe ?
Six touffes partout.
Yes. Eh bien, bravo, vous n'avez pas chômé pour les jambes. Attention au coup de froid, tout de même, il ne reste que deux manches.
Je chante pour mon public, poil de bic. Je chante pour les filles, poil aux chevilles. Je chante pour Huguette, poil de quéquette. Je chante pour Marguerite, voilà.
Les Québécois.
Bon, merci Jean-Baptiste pour cet interlude du musical de qualité. Pour la prochaine épreuve, celui qui a le plus de poils choisi, mais il y a égalité parfaite, donc c'est Jean-Baptiste, notre stagiaire, qui choisira en totale partialité. Bah, qui commence
l'équipe.
Oui,
ah,
qui a la
Marie.
Main. C'est Marie qui a la main car elle a fait preuve de force dans cette épreuve.
Je
alors Marie,
ça, Jean-Baptiste.
Marie et Eva, pas touche Marie. Alors, vous préférez les questions évidentes de films qui n'existent pas ou bien les questionnaires assez simples sur l'actualité ?
Ah, les questions sur les films qui n'existent pas.
Très bien. Alors,
je déteste.
Donc, bien évidemment, le questionnaire que vous n'avez pas choisi ira à l'autre équipe. Cette fois-ci, on joue pour une touffe de bras par bonne réponse. Alors, les questions évidentes des films qui n'existent pas. Dans Alien vs Wonder Woman, quelle est l'issue de la bataille finale opposant Wonder Woman à la reine des aliens ?
Bah voilà, on est bien nickel. Hein.
Oui, ça va, ça va. Hein.
Bah alors Marie, tu te souviens forcément de cette scène de bataille ?
Oui, alors attends. En fait, on comprend que Wonder Woman est une infiltrée des aliens. Et du coup, elles arrivent à communiquer. Wonder Woman se rappelle de ses origines cachées. Elle se rappelle de, voilà, sa mémoire avait été effacée pour être élevée parmi les humains. Et finalement, elle finit par rejoindre la reine des aliens et elles deviennent les reines de l'univers.
Ah, c'est presque tout à fait ça. Il manque un dernier petit chose qui aurait presque à voir avec la chronique que tu nous réserves avec Maë tout à l'heure.
Ils ont beaucoup, beaucoup d'enfants.
Bravo, c'est tout à fait ça la fin.
Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Les aliens sont non-binaires.
Exactement.
Bon alors, vous avez totalement réussi cette question. Maintenant, quel est le nom de ce film, vous savez, adapté d'un succès américain dans lequel Gérard Jugnot a le rôle principal et retrouve à l'affiche d'ailleurs Jean-Baptiste Meunier, des choristes, pour un couple glamour et surprenant. Adapté d'un classique américain, enfin d'un film qu'on a tous vu.
J'ai envie de voir ce film.
Les Choristes in New York. Vous savez, c'est un peu comme Les Visiteurs quand ils les ont transposés à New York.
C'est une adaptation
et là, c'est...
d'un film américain.
Merde. Écoutez, Jean-Baptiste Meunier, ça fait longtemps que je le suis plus dans son actualité, hein, voilà.
Il a mué. Une comédie musicale.
Le Roi Lion.
Ah, non.
Junior,
non,
pas non, du non, tout.
On vous refuse cette touffe.
Vous n'y êtes pas du tout. C'était La Plaine, bien sûr. Formidable film. C'était un super remake. Bon, tant pis. Vous avez une autre question pour vous rattraper. De quel film ayant remporté le plus d'Oscars, 11 chacun, le scénario de Ben Sanik et Le Retour du Doigt est-il adapté ? Je vous rappelle que dans ce film, c'est une course de chars à voile entre les plus grands joailliers du monde qui est organisée au large de l'Atlantique. Mais tout bascule la nuit de précédant la course à l'hôtel.
Attends, vous pouvez répéter la question ?
La Titanic. Alors, les trois
on
films.
La question.
Ah, les trois films
qui trilogie. Sont adaptés. Les trois films qui sont adaptés dans ce film Ben Sani qui est le retour du doigt.
Il y a trois films qui ont remporté le plus d'Oscars. Et le mec s'est dit, on les combine.
On va faire un mix.
Comme ça, on aura beaucoup d'Oscars.
C'est compliqué. C'est quoi, ouais.
Titanic.
Titanic.
Il y a le retour du Jedi.
Le retour du roi plutôt.
Le retour du roi.
Oui.
Et
troisième, une course de char à voile.
Une course de char à voile.
Ben,
c'est ça.
J'ai une culture populaire.
Mais c'est ça.
Les gosses. Mais merci. Oh, enfin, merci de ce que tu m'apportes.
11 Oscars chacun.
Des Oscars chacun. Merci.
Je crois que
deux touffes de bras.
Oui, c'est tout
et
à fait
c'est
ça.
Pas mal.
8 en
tout. Une par bras.
Bon, Juliette, il s'agit de perdre avec dignité.
Ouais, maintenant
c'est moins drôle. Maintenant c'est moins drôle.
Ils sont très contents.
Oui, bah oui. Oui, écoutez, on va essayer.
Bon, vu que le jingle ne fonctionne pas, on va passer tout de suite au questionnaire assez simple sur l'actualité. Vous êtes partant ?
Oui.
Très bien. Alors, vous vous souvenez de la salle de concert parisienne qui a été connue pour un tragique événement ? Elle est au cœur d'une polémique. Mais quel est l'artiste hautement controversé qui risque de se voir interdire cette fameuse
salle ? C'est un rappeur qui a dit un truc du genre voilà, parle-moi de mes ancêtres, je te parlerai de la Saint-Barthélemy, mais je me souviens plus du
mais
reste.
Mais moi,
comment
je veux
s'appelle
son nom.
Ce rappeur c'est facile.
J'ai peur de dire un truc raciste.
Juliette, tu as le droit d'aider ton caramel.
Milan, non, c'est un truc en âne. C'est un truc en âne.
Ah, je
Bertrand crois. Canta, c'est pas un rappeur.
Un truc en âne.
Je crois que
accordez-le.
Vous n'avez pas. Je suis désolée, je n'accorde pas ça.
En âne.
Vous pas vous pas pas
c'est Rilan. C'est
nos prisonniers. C'est Médine. Et c'était raciste.
Voilà, oui, c'était totalement. Voilà. Bon, désolé.
Bon, peut-être que vous pouvez vous rattraper avec celle-ci. Oui. Une rencontre au sommet a eu lieu entre Trump et le dirigeant de la Corée du Nord. Est-ce que vous pouvez m'épeler le nom de ce dirigeant ?
Alors, facile, ça se fait. Ça se fait. Attends.
K-I-M.
J-O-N-G.
Oui.
Un. Alors là, c'est plus dur. U-N. U-N.
UN, c'est tout à fait ça. Mais ok, puisque vous êtes plutôt fortiche.
Moi, c'est pas Wonder Woman, la reine alien et non-binarité. Hein.
Puisque vous êtes plutôt fortiche, est-ce que vous pouvez m'épeler la capitale de la Corée du Nord ?
Alors, je pense que c'est possible. Et pourtant, j'ai fait de la SMR. Alors, donc tout le monde connaît évidemment Séoul. Non, je rigole, Pyongyang. Donc, P-Y-O-N-G-Y-A-N-G.
Bravo.
Allez, deux points.
On fait de tout bien, quoi.
Bravo.
Voilà. Alors, voilà, Juliette, c'est la beauté, tu vois, je croyais qu'on allait mourir.
Une dernière question, vous voyez, c'est pas si dur.
Oui.
Vous êtes à 8 touffes chacun, attention.
Alors, l'Europe se renvoie la balle concernant un bateau d'ONG dans la Méditerranée. À son bord, des personnes qui ont besoin d'aide. Mais combien de personnes étaient sur le bateau l'Aquarius en attente d'un port pour débarquer ?
Je peux tenter un truc, mais ça vient de loin.
Oh, je dirais à deux près.
À deux près, là.
Alors, 600 ?
600 ?
629 ?
Oui ! Oh non !
629 ! C'est le chiffre exact !
Allez !
C'est le chiffre
alors,
exact !
Qu'est-ce qu'on va faire là ? Wonder Woman, Reine Alien, mon pu.
Alors, je veux juste un peu rageux, Thomas.
Sans Juliette, merci Juliette, c'est ton soutien.
Alors, on va rappeler les touffes ?
Oui, un petit rappel des touffes.
Alors, 9 touffes pour les képubiens.
Oui.
Et 8 pour les porcs épiques.
Vous êtes donc perdant.
Bravo, je te sens un peu rageux, Thomas.
Mais c'est la première fois que j'arrive en finale dans le jeu. Je comprends.
Alors maintenant, pour une moustache et la multiplication par deux de tous les points que vous avez déjà, la plus terrible des questions. Une et une seule question.
Ah oui. Oh non.
La question d'Olivier Mazerolle.
Évidemment.
L'équipe qui répond le plus rapidement à la fin de cette question verra ses poils doubler de longueur, ce qui lui assure presque la victoire et donc la survie. Mais nous n'en sommes pas encore là. Vous êtes bien accrochés ? Faites bien attention à la question et seulement à la question, car il se peut que je prenne quelques petits détours. Voici la question. Avant de me lancer dans une question intrusive, il faut que je vous assure de ma bonne intention, parce que je ne cherche nullement à recueillir vos informations personnelles, ça je vous l'assure. Enfin, quoi qu'une couleur, est-ce que c'est vraiment une information ? On m'a plutôt appris que c'était une matière, voire même une lumière.
Matière ?
Oui, enfin tu sais, comme, la peinture quoi, ça peut être... Non, si, parce que... Non. Mais attention, parce que les spectres sont différents. Enfin, je sais que, par exemple, la synthèse additive et soustractive... Enfin, tu te souviens de ça en SVT, Jean-Baptiste ?
Ah oui, oui.
Oui, oui, parce que moi, je m'en souviens plus trop. Mais enfin, bon, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas... additive soustractive, on en a tous une. Enfin, je veux pas juger ceux qu'on aurait plusieurs, parce qu'on a le droit d'être indécis dans la vie. Enfin, moi, je comprends ceux qui sont indécis, tu vois, qui peuvent pas trop faire de choix. Enfin, oh là 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 là. Bon, en tout cas, il y en a une qu'on préfère, c'est celle qu'on aime, c'est la nôtre. Enfin, je crois, est-ce qu'on peut dire ça? Parce que il est pas tellement question d'appartenance ici, je dirais plutôt préférence. Tu vois, Jean-Baptiste, tu vois,
genre, oui, ma préférence. Ça fait exclusif.
Oui, voilà. Donc, du coup, on en a tous une préférée. Je sais plus. Enfin, bon, vous, c'est laquelle?
Bleu. Je l'ai.
Et c'est Marie.
Oui, c'est Marie.
J'adore cette question.
Je quitte ce plateau. Je retourne à Pyongyang. Mais moi, j'ai rien bité. Moi, j'ai décroché à ma préférence de Julien Clerc. C'est ma némésis, Julien Clerc. Moi, je peux pas.
Bravo, Marie. Tu es restée accrochée à cette question. Et ça paye. Puisque tes points sont doublés et que vous obtenez une moustache. Eva, ça te va très bien.
Et regarde, t'as même gagné.
Alors, ça fait un total, Jean-Baptiste, de...
Alors, ça fait un total de 16 touffes en tout. Enfin, 32 yes. touffes. Non, 16 touffes, pardon, 16 touffes. Je compte
16
bien
touffes, bravo. Alors, équipe Porc et Pic, vous allez pouvoir aller en finale. Yes. Alors, choisissez laquelle d'entre vous défendra votre honneur et accessoirement votre vie. Voici les questions décalées. La règle est simple. Je vous pose une première question, vous ne répondez rien. Puis à ma deuxième question, vous me donnez la réponse de la première question et ainsi de suite. Par exemple...
On va vous le faire.
Par exemple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, si tu étais un couvert, lequel serais-tu ? Complète l'expression « avoir une tête de... »
Fourchette.
Quel jour est-on ?
Bit.
Non, moi je pensais à tête de nœud, Jean-Baptiste.
C'est pareil.
Super. Alors, vous avez compris le principe ?
Oui.
Bon, peut-être que c'est Marie qui y va, du coup.
Okay, allez, ouais. C'est ma troisième bataille face à ce jeu.
Allez, c'est parti.
Attends, j'ai quand même le droit d'avoir un point. Et le troisième beurre aussi.
Bien sûr.
Voilà. C'est mon troisième beurre aussi, c'est vrai.
C'est parti pour le questionnaire décalé rap et littérature. Qui a écrit Les Misérables ? Qui chante le duc de Boulogne ?
Victor Hugo.
À qui doit-on le poème Voyelle ?
Je connais pas le nom de ce rappeur.
Vas-y.
Tu peux l'aider.
Arthur Rimbaud ?
Non.
Mais non !
Non.
Le duc de Boulogne.
Le duc de Boulogne.
Oh mon dieu, c'est trop compliqué.
Je vais faire un manteau de fourrure avec les poils de ta chatte ? Non, ça...
Booba, ça vous dit rien ?
Booba, mais... Ah bah si, bah ah, si.
Mais moi j'y connais rien en Booba, voilà, c'est bon.
Moi je préfère Vald,
à part
bon.
La Meurthe et Moselle.
Et malheureusement, vous avez perdu.
C'est perdu.
Enfin, nous on faisait des questionnaires pour que tout le monde gagne, mais non, vous perdez.
C'est pas vrai, vous êtes des odieux tortionnaires, d'accord ? Arrêtez de vous faire passer pour des gens humanistes,
Marie,
là.
Vous êtes mauvaise.
On croirait Gérard Collomb.
Ça vaut bien la peine d'aller en finale.
Vous me faites honte.
Et on vous fait quand même la suite des questions parce que quand même c'est bête. Donc Jean-Baptiste, à qui doit-on le poème Voyelle ?
Booba.
Qui chante Pandipanda ?
Non mais
Arthur Rimbaud.
Rimbaud.
Oui. Merci. Qui a écrit l'incroyable épopée sociale des Rougon-Macquart ?
Écoutez, je suis très culture légitime, d'accord. Moi, les rappeurs, voilà.
Mais Chantal Goya.
Pandipanda, voyons.
Pandipanda, Chantal Goya, ça rime. Enfin bon, pouvez-vous me citer le rappeur d'un groupe
Émile Zola.
Émile Zola, effectivement. Et quel est votre pharaon préféré ?
Ah là là.
Ayam.
Ayam. Oh mon dieu.
Akhenaton, Shuriken, ça vous dit rien ?
Bon, je quitte le plateau bon. Avec beaucoup de déception. On
et
récupère
d'amertume.
Tous vos poils, beaucoup d'amertume. Oh là là. Désolée pour vos oreilles, chers auditeurs. Je pense que de toute façon, vous avez déjà quitté le direct. Voilà. On vous laisse. Je pars. Ciao. Il est trop drôle, il suit tout.
Ce qui contorture oratoire bique, toute cette bourgeoise qui s'épile. Ça me rase, ça me barre, ça m'empile. Dans un monde aseptique,
c'est... Tu m'introduis.
Je suis politiquement incorrect.
première note.
Alors maintenant, on reprend un petit peu de sérieux ou pas, puisqu'on va boire un petit coup à la maison avec Maë.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements.
Bienvenue pour cette deuxième chronique œnologique de l'histoire de Transistor. Et ce soir, entre deux verres de vin rouge et après l'écoute de cet extrait de Boris Vian, Je bois, j'aimerais vous parler de l'alcool triste. Et oui, il m'est arrivé, je le confesse, de parfois boire un verre de trop, oui, je dis bien parfois, et de soudain basculer dans la mélancolie. Non pas que ça ne m'arrive que sous l'emprise de l'alcool, mais la mélancolie du Côte-du-Rhône a une saveur différente. Bref, j'aimerais vous parler de l'alcool triste. Vous le savez sans doute, la boisson a le don de révéler la face obscure de la force, notre côté Mr. Hyde, ou que sais-je encore, pour faire simple et moins métaphorique, l'alcool rend ivre. La petite molécule de formule CH3CH2OH circule dans notre sang sitôt ingéré et navigue jusqu'à notre cerveau où l'éthanol modifie les membranes de nos neurones. Il s'accroche à certains récepteurs et transforme, en les amplifiant ou les diminuant, les messages nerveux. Certains deviennent violents, d'autres se roulent par terre ou font l'amour, les plus tranquilles s'endorment, il arrive de trop parler et d'avoir excessivement confiance en soi, et puis, pour les plus malchanceux, l'ivresse rend malheureux. L'alcool fait perdre en partie ou complètement le contrôle de ses émotions et ce serait pour cela que ressurgirait après quelques verres de sentiments refoulés et que l'émotion vous submergerait. Ce qui peut sembler complètement paradoxal puisque boire, si on n'est pas encore complètement dépendant, on le fait pour se détendre, faire la fête, être pompette, joyeux ou juste parce qu'on aime la saveur délicate et à la fois rustique, corsée, charpentée mais aussi fruitée du Côte-du-Rhône. Mais justement, en parlant d'élixir divin, vous apprendrez que tous les alcools n'ont pas la même propension à vous rendre mélancolique ou sûr de vous pour danser la polka. Ce serait effectivement, selon un article de Slate.fr, les alcools forts, les alcools forts rendraient plus dynamiques, mais ce glamour, mais ce serait souvent dû au liquide caféisé auquel on les mélange. La bière, elle, est tout sauf glamour, justement, elle favorise les ballonnements et l'envie d'uriner, mais au moins ne rend pas trop agressif et généralement pas trop triste non plus. Et enfin, chers auditeurs, vous apprendrez que le vin est l'alcool le plus sexy. Et oui, sexy parce qu'apaisant, parce que notre spiritueux préféré contient de la mélatonine, une hormone favorisant un cycle de sommeil régulier. Conclusion, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes enclin et mélancoliquement si vous êtes enclin à mélancoliquement sombrer dans d'obscures réflexions existentielles sur le non-sens et l'inutilité de votre misérable vie, buvez du Côte-du-Rhône. C'est ce qui est le plus susceptible de vous réconforter ou au moins de vous assurer une nuit de sommeil sans rêve, comme un suicide journalier.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, merci de le consommer avec modération.
Et je bois. Dès que j'ai des loisirs, pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule, je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Tu l'as pas ?
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans les fantômes du paradis.
Musique.
Entendant cette musique bien connue qui est dans l'inconscient collectif unanimement associée à un mouvement de spirale. encore vertigo, pensez-vous ? Oui, encore vertigo, non seulement parce que ce film est une source intarissable d'émerveillement et de réflexion, mais aussi parce que vous avez voté à 56% sur mon petit sondage Twitter prévu à cet effet. Trêve de plaisanterie, ce soir, nous avons de la route à faire, direction San Francisco, en 1958. Nous n'y rencontrerons pas une énième fois Scotty, éternel mélancolique, détective romantique au cœur brisé, cow-boy urbain en mal de grands espaces et qui n'arrive pas à se faire aux immenses buildings qui parsèment les villes américaines. Nous, non, nous partons à la rencontre de Madeleine, de Midge et de Judy, les femmes qui hantent cette histoire, des personnages qui ont beaucoup à nous apprendre sur le cinéma, mais aussi sur le patriarcat. Vous l'aurez compris, chères auditrices et chers auditeurs, ce soir, nous opérons une lecture féministe de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Extrait.
Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance.
Voici le meilleur résumé de Vertigo que je n'ai jamais entendu. Et c'est Chris Marker qui nous le donne dans La Jetée. L'homme marqué par une image d'enfance dans ce film, c'est Chris Marker lui-même qui, par l'intermédiaire de son personnage qui voyage dans le temps, veut s'imprimer sur la pellicule d'un autre film, Vertigo. Qui est donc cette image d'enfance qui l'attire hors de l'espace-temps euclidien comme un trou noir ? Madeleine, bien sûr. Madeleine et son profil sculptural, Madeleine et sa chevelure blonde dans notre monde, Madeleine et son chignon en spirale, Madeleine comme une Madeleine de Proust. Ce jeu de mots n'est pas de moi, mais bien de Chris Marker lui-même dans Immemory. Il faut se souvenir de la première fois que Scotty voit Madeleine au Ernie's. Son visage se découpe sur le fond des tapisseries en velours rouge, serties par un décolleté d'une robe vert émeraude. Madeleine, sous le, nous le comprenons peu à peu, n'est qu'une pure image, tantôt aperçue par Scotty à travers l'embrasure de la porte d'un magasin de fleurs, tantôt filmée à travers la fenêtre d'un hôtel qui encadre son buste, voire carrément assise dans un musée, perdue dans la contemplation de son propre portrait, ou plutôt de celui de son aïeul qui arbore le même chignon spiral qu'elle. Tandis que Scotty l'épie, nous nous apercevons vite qu'elle exerce sur lui la même attraction étrange que le sol lorsque Scotty se retrouve en hauteur. Quand l'ancien policier est saisi de vertige, le sol est filmé en travelling compensé. Autrement dit, la caméra zoome et recule en même temps, la focale est déformée et crée un effet visuel d'attraction très puissant. Scotty éprouve pour Madeleine une pulsion du même ordre. Laura Mulvey, philosophe féministe américaine, qualifie cette pulsion de scopique. Il s'agit de faire de l'autre un objet de plaisir par le simple fait de le soumettre à son regard. Le plaisir provient du fait de disposer symboliquement du corps de l'autre en le considérant comme l'objet de sa propre fascination sexuelle. Cette pulsion, profondément voyeuriste, est ce qui détermine Scotty à suivre Madeleine à la demande de son mari, un ancien camarade de régiment. Il se repaît de l'image qu'offre cette femme mystérieuse et fantomatique, parée de tous les atours du glamour hollywoodien, et achève de tomber amoureux d'elle au pied du Golden Gate Bridge lorsqu'il plonge pour sauver cette Ophélie de la baie de San Francisco. Lorsque Madeleine quitte l'appartement de Scotty après avoir repris conscience, elle est vue par Midge, l'amie de toujours de Scotty, éperdument amoureuse de l'ancien policier. Était-ce un fantôme ? Tu t'es bien amusé, demande Midge entre ses dents. Cet autre personnage de femme en marge de l'histoire évoque au premier abord le personnage d'une vieille fille un peu trop moderne pour la société des années 50. Je n'ai pas besoin de chapeau, répond-elle spontanément à Scotty qui lui rappelle d'en mettre un pour sortir. Midge dessine des publicités pour de la lingerie féminine. C'est donc un personnage de femme qui, contrairement à Madeleine, a la pleine possession de la représentation de son genre. D'ailleurs, plus tard, elle réalisera son autoportrait en imitant la peinture de l'ancêtre de Madeleine qui fascine tant Scotty. Cette plaisanterie a le don de mettre ce dernier en colère, il quitte rageusement l'appartement de son ami, incapable de supporter plus longtemps cette gourgandine qui croit avoir le droit de disposer de sa propre image comme elle veut, non mais. Dans l'univers de Vertigo, une vraie femme doit être le reflet de Madeleine ou ne doit pas être. Et tant pis si la transformation doit briser le modèle de l'intérieur. Madeleine, convaincue d'être possédée par son ancêtre, la mystérieuse Carlota Valdés, dont elle contemple obsessionnellement le portrait, décrit ses crises comme une longue galerie des glaces au miroir brisé qui lui renvoie son image, cassée en petits morceaux. Madeleine, comme l'immense majorité des icônes hollywoodiennes, est une femme fragmentée, une femme dont la représentation se fait par métonymie, une partie pour le tout. Ce sont tantôt la bouche, tantôt les yeux, tantôt les cheveux qui incarnent la femme, mais jamais la totalité. C'est d'ailleurs ce que montre le générique au tout début du film. Un visage de femme dont on filme les parties successivement, en très gros plan, et sur lesquelles défilent les noms des stars masculines, James Stewart et Alfred Hitchcock. Si bien que, de ce visage diffracté, les pupilles finissent par se transformer en spirale abstraite qui occulte tout à fait le corps réel de la femme, ou ce qu'il en restait. Ce que nous dit Hitchcock dans Vertigo, non sans une certaine dose d'autopsychanalyse, c'est que la femme est un canevas sur lequel les hommes pygmalions peuvent projeter tout ce que dicte leur désir, au mépris du sujet pensant qui se trouve là-dessous. C'est précisément ce que fait Scotty après le suicide de celle qu'il aimait lorsqu'il rencontre Judy, sosie rousse de Madeleine. Il entreprend de métamorphoser la jeune fille en l'habillant, la chaussant et la coiffant, comme Madeleine.
I'll wear the darn clothes if you want me to, if you'll just like me.
Your hair.
Oh, no.
Judy, please, it can't matter to you.
If I let you change me, will it do it? I do what you tell me. Will you love me?
Pour être aimée de Scotty, Judy accepte tous les changements, y compris ceux qui distordent le lien entre son apparence et sa substance. Elle va jusqu'à accepter de nouer ses cheveux fraîchement teints en blond platine en un chignon spirale, geste hautement symbolique qui précipitera la jeune fille à sa perte. Vertigo est donc un film sur le meurtre symbolique de deux femmes remplacées par leur représentation. Ce film a toujours été un mystère pour moi. Est-ce une critique consciente formulée par Alfred Hitchcock sur le traitement des actrices à Hollywood ? Pourtant, le cinéaste est connu pour son rapport problématique aux actrices blondes et pour les rôles qu'il leur donne qui ont tendance à en faire de pures images filmées de façon métonymique. Nous pourrions penser Vertigo comme une introspection, une réflexion du cinéaste sur sa propre pratique du cinéma, sur ses propres névroses et sur les biais sexistes qui hantent ses images. Toujours est-il que Vertigo nous fournit un outil esthétique et philosophique sans pareil pour penser le male gaze et l'histoire des représentations de femmes qui irriguent le cinéma américain jusqu'à nous et qui ne sont pas sans lien avec le traitement que leur réservent certains producteurs hollywoodiens. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt dans Les Fantômes du Paradis. Et maintenant, nous accueillons Nikita Lovejoy et Clover Fox sur Transistor pour une nouvelle chronique X.
Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
La vie sexuelle des Français.
À votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est ?
Bon, je pense que l'hétéro vient de l'éther. C'est s'envoyer en l'air en se droguant et de l'éther.
Des pratiques sexuelles plus libérées.
La sexualité n'a jamais été aussi exhibée.
Avez-vous entendu parler, madame, de déviation sexuelle ?
C'est-à-dire qu'il y a 40 ans de conduit,
on va parler de...
Voyez-vous ce qu'on appelle un adultère.
Adultère, c'est qu'un enfant, quand il est jeune, appelle ça adolescent. Quand il grandit, on dit qu'il est adultère.
Winston Bennett est un ancien accro au sexe.
Les Français, alors, sont-ils prudes ou gaulois ?
Bonsoir, Clover.
Bonsoir, Nikita.
Ce soir, on se retrouve sur Transistor.
Transistor.
Pour parler sexe.
Pornographie.
Érotisme.
Qu'est-ce que la radio peut apporter au sexe ?
Quelles possibilités le son offre-t-il à l'érotisme ?
À quoi ressemble la pornophonie ?
Alors, si on pense à des contenus pornographiques audio, c'est peut-être le téléphone rose qui vient en premier à l'esprit de nos auditeurs coquins. Je dis bien auditeurs, car malheureusement, le téléphone rose est assez androcentré.
Eh oui.
Que ce soit pour les clients homosexuels ou hétérosexuels. Le principe, il est assez simple. Vous appelez un numéro, vous choisissez une hôtesse en fonction de la description qu'elle donne d'elle. Vous pouvez soit avoir une conversation assez chaude avec cette hôtesse, soit écouter discrètement un appel entre un client et une hôtesse.
Alors Nikita, tu t'es renseignée sur ces lignes de téléphone rose. Oh. Qu'as-tu choisi ?
Oui, Clover, j'ai appelé l'un de ces numéros ce midi, confortablement installé dans un fauteuil du hall Félix Pecot. J'ai choisi d'écouter une conversation parce que j'ai un côté voyeur, ou plutôt auditeur. Bon, je dois vous avouer que c'était assez décevant. Les hôtesses ont tendance à rester dans un canevas narratif prédéfini, assez convenu, si le client ne fait pas prendre un autre tour au récit. Mais parfois, par hasard, vous pouvez entendre des choses moins conventionnelles.
Nikita et moi, nous vous avons sélectionné un petit extrait.
Tu veux que je te console ? Qu'est-ce qui pourrait te consoler ? Tu aimes les bruits. Qu'est-ce que t'aimerais m'entendre faire comme bruit, Henri ? Ah non, là, pas tout de suite, mais si tu veux, je peux y aller. Oui, tu aimerais ça ? D'accord, bon. Tu viens avec moi, on va passer de la cuisine, on va aller retourner se poser sous la couette. Juste tous les deux. Tu veux m'entendre boire ? T'aimes ça? C'est quand j'avale que t'aimes? C'est ce bruit-là? Oh, mais oui, bien sûr que tu peux te toucher pendant que je bois. Tu veux m'entendre déglutir encore?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici un client qui exprime un fantasme auditif un peu particulier. Ses répliques ont été coupées et je trouve que cela rend bien le talent de l'actrice, de l'hôtesse qui fait exister un rapport sexuel inexistant par sa seule voix et sa seule narration.
Alors je me suis demandé pourquoi des hommes appelaient encore le téléphone rose à une époque où toutes les vidéos possibles sont disponibles en deux clics sur Internet et gratuitement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a la quête d'une certaine authenticité. Vous parlez avec une personne de voix et de chair, vous l'écoutez parler à un autre. Cet autre client, quand vous l'écoutez, laissera peut-être libre cours à son imagination fantasmatique pour demander une pratique particulière, un désir plus profond. Peut-être que tout est faux dans le téléphone rose. L'hôtesse n'est pas vraiment rousse, elle n'a pas vraiment de nuisette, elle n'est pas vraiment en train de mouiller, et d'ailleurs elle est peut-être en sarouel et en t-shirt. Mais il y a l'espoir au milieu d'un faux incertain de trouver du vrai et du sincère.
Et puis, c'est moins cher que les camgirls. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain. It's hard to explain. They're talking about you. Talking about you. But you're still the same.
Nicole Kavinsky et vos désirs nocturnes à l'instant sur Transistor.
En pornographie sonore, on ne fait pas qu'appeler le téléphone rose. On raconte des histoires aussi. Alors, quand on pense radio et pornographie, il faut savoir qu'il existe des lectures de récits érotiques pour éveiller vos sens et votre désir. Ces récits, on les déniche sur des sites comme chuchotemoi.fr, leverrou.fr ou encore contrôlex.fr. Les lecteurs et lectrices aux voix sensuelles lisent pour votre plaisir des textes littéraires comme ceux de la marquise de Manoury, d'Oscar Wilde ou encore Henry Miller. Et ce regain de culture dans la pornographie est, entre nous, amoureuses des lettres, fort plaisant.
Les Clovers, écoutons à l'instant quelques extraits de ces podcasts.
D'abord, il passa sa main sur la mienne, si doucement que je la sentais à peine. Lentement, ses doigts s'entrelacèrent aux miens, comme ceci. Et il semblait tout heureux de prendre possession de moi pouce par pouce. Puis, l'un de ses bras encercla ma taille, l'autre mon cou, et le bout de ses doigts se promena sur ma poitrine, me chatouillant délicieusement. Nos joues s'effleurèrent, et ce contact presque imperceptible me fit éprouver dans tout le corps, principalement autour des reins, un agréable frisson.
Nous soupirons plus fort de plaisir manifeste, et d'un appui commun déclenchons le séisme. « J'y réponds en réflexe, décupant malgré moi la jouissance connexe que nous ne pensions pas à ce point déclencher. Stimulés par nos voix et hors de tout contrôle, nous nous laissons porter chacune à tour de rôle par les à-coups violents de nos corps déchaînés. Nous sommes au-delà de mes plus beaux fantasmes.
Je la pelote, pince ses mamelons, malaxe ses cuisses, pour finir par examiner les moindres recoins de son con. Elle crispe ses orteils, lance des coups de pied, sans trop de conviction, et grogne de plaisir. Pour une raison mystérieuse, ses aisselles semblent particulièrement nues et offertes.
Bon, alors au moins, ce qui est un peu plus agréable que le téléphone rose, c'est que c'est quand même plus inclusif, que vous soyez un homme, une femme, une personne non-binaire, vous pouvez forcément trouver les personnes qui vous attirent.
Ce qui est moins agréable, parfois, malheureusement, ce sont des voix peu glamour, ou des enregistrements mauvais, voire même, Nikita, anti-sexy. Il faut donc, chers auditeurs et chères auditrices, choisir finement les podcasts que vous écouterez pour ne pas perturber votre plaisir. Mais ce que j'ai trouvé agréable, finalement, dans le second extrait que l'on a entendu, c'est l'insertion de sons et d'une ambiance sonore qui peut donner, j'ai trouvé, un certain relief au récit et aussi de légers frissons dus aux basses fréquences.
Et pourtant, parfois, il y a des personnes, cela peut les gêner dans leur concentration pornographique, les sortir de l'état dans lequel elles sont. Et c'est ainsi, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à cerner ce qui correspond à votre sensibilité.
Et en parlant de sensibilité, et juste avant de basse fréquence, j'aimerais faire remarquer que la radio, et plus largement l'audio, est porno-compatible, parce que le sens de l'ouïe, le son, la bouche, l'oreille, portent en eux un véritable potentiel érotique. J'aimerais vous lire une citation de Murray Schafer, auteur que les géographes apprécient particulièrement. « Si l'œil projette en haut dehors, l'oreille attire au dedans. » Elle absorbe l'information. C'est un orifice érotique. Écouter des sons harmonieux, de la musique, par exemple, est comme la langue de l'amant à l'oreille. Entendre est une manière de toucher à distance.
Alors justement, Clover, j'aimerais faire une parenthèse pour parler d'ASMR. Chers auditeurs, chères auditrices, vous connaissez peut-être l'ASMR dont Thomas est un éminent représentant. En anglais, Autonomous Sensory Meridian Response. C'est une sensation de détente, un picotement agréable à l'arrière du crâne que vous provoquent certaines voix, des bruits feutrés, des caresses dans les cheveux. Tout un pan de YouTube est consacré à ces contenus audio et vidéo. Mais nous recherchons l'excitation et non pas la détente. Alors vous allez me demander, pourquoi donc parler d'ASMR ici, Nikita ?
Parce que l'ASMR... moi je suis pas Nikita.
Pardon ? Tu es Clover, effectivement. Non mais je m'adressais aux auditeurs qui me posaient la question... Clover.
Ok, merci, Nikita. L'ASMR, dans les vidéos de certaines youtubeuses, devient érotique, parfois presque malgré elle, on a l'impression, voire franchement tendancieux. Et à Transistor, on aime particulièrement les bonnettes fluffy, et vous verrez que cette youtubeuse la rend particulièrement érotique.
Donc je suis vraiment...
Alors évidemment, vous qui avez plus de 18 ans, vous aurez remarqué que l'évocation de cette bonnette fluffy est chargée d'ambiguïté. D'ailleurs, nous dédions cet extrait à un auditeur de Transistor. Il se reconnaîtra, il est lui aussi amateur de bonnettes fluffy.
Enfin, si vous avez envie de participer, vous aussi, et d'enrichir le monde de la pornographie audio, pensez que le sexe s'enregistre et se podcast.
Et oui, même avec les Tascam de Transistor, nous avons découvert pour vous un site. Il s'appelle la Bibliothèque des Orgasmes.
C'est un site qui répertorie des centaines et des centaines d'orgasmes à écouter et réécouter. On en a sélectionné un pour vous, l'orgasme de Marie.
C'est un joli prénom, ça, Marie.
Oui, c'est pas moi. L'orgasme de Marie, oui. Petit souci technique qui vous coupe.
Fouille dans la
écoute.
Bibliothèque, Félix. Et prestement.
Si seulement on l'écoutait. On peut aussi simuler, c'est vrai. Nikita. Alors, ça vient, Félix ?
Un orgasme, Félix, tout de suite, s'il te plaît.
Ce que j'ai trouvé mignon avec Marie, c'est que elle est mignonne, justement. Elle finit par rire à la fin de son orgasme. Est-ce qu'on pourrait peut-être l'écouter maintenant ? Toujours pas. Alors, sur la bibliothèque des orgasmes, vous avez absolument tous les orgasmes possibles. Je me rappelle notamment de l'orgasme en O, français, qui donne O.
Bon, l'un des problèmes quand même, il faut qu'on le dise, Clover, c'est que sur cette bibliothèque des orgasmes, il y a essentiellement des orgasmes féminins.
Exactement.
Alors, messieurs, on vous invite à prendre vos tascams et vos zooms, vous aussi, et aller enrichir cette bibliothèque.
Exactement, pendant le coït, vous pouvez sortir vos enregistreurs.
Et éviter de simuler des orgasmes, s'il vous plaît, ça s'entend tout de suite dans la bibliothèque des orgasmes.
Utilisez une bonnette fluffy, de préférence. Alors voilà, chers auditeurs, puisque le câble, visiblement, ne parvient pas
à quoi, Clover ?
Ne parvient pas à nous faire entendre le merveilleux orgasme de Marie, joli prénom en passant, Nikita.
Tout à fait, Clover.
Nous allons devoir continuer cette chronique en espérant que Félix répare le souci technique à la fin. Alors voilà, chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez écouter des sons d'orgasme, si vous voulez contribuer à cette banque sonore érotique, il ne reste plus qu'à sortir vos micros pendant le coït.
Et voilà, à vos enregistreurs.
Peut-on entendre le dernier extrait, Félix ?
Something. 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 Something.
C'était la chronique porno radio.
La chronique sur Transistor.
La chronique sur Transistor.